deuxième semaine de décembre, il y avait eu de la neige. Plusieurs centaines d'étudiants se sont mobilisés aujourd'hui à Québec pour manifester contre une éventuelle hausse des droits de scolarité. C'est une rhétorique dans le monde québécois du financement des universités. Les étudiants sont toujours contre. Et comme les gouvernements ont souvent donné raison aux étudiants, ben on veut pas d'augmentation. En même temps, les partenaires en éducation sont à se pencher sur l'épineux dossier du financement des universités québécoises. On manque d'argent dans les universités. Comment peut-on régler le problème? Et en même temps, l'Institut économique de Montréal en a profité pour sortir un communiqué dans lequel on présente quelques pistes de solutions au problème de financement des universités du Québec. Retrouvons Youri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal sur les frais de scolarité. Bonjour.
Bonjour, M. Parent. Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très bien aussi.
Alors, d'abord, je pense qu'il faudrait placer le bébé, c'est-à-dire le Québec par rapport aux autres provinces, pour se rappeler où on est dans l'échiquier des coûts et des frais de scolarité universitaires au Canada.
En fait, on a les frais de scolarité les plus bas, qui représentent un peu moins de la moitié là, des frais de scolarité, la moyenne canadienne qui est payée ailleurs. Il faut dire aussi qu'il y a une autre différence fondamentale. Ici, tout le monde paie les mêmes frais de scolarité, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on étudie dans un programme coûteux ou non.
Alors qu'ailleurs, autrement dit, Canada, si j'étudie en médecine ou que j'étudie en arts plastiques, c'est le même coût d'entrée.
Exactement. Okay. Et puis, ailleurs au Canada, c'est modulé, comme okay. On dit, là, selon les coûts okay. De formation.
Si on essaie, si on veut, ça va être difficile, là. Si on veut faire abstraction de la politique, parce que c'est sûr qu'on va avoir de la misère, là, est-ce que la seule raison pour laquelle on paye beaucoup moins cher qu'ailleurs, c'est effectivement la subvention plus grande de l'État québécois?
En fait, c'est parce que l'État a un règlement qui limite les frais de scolarité, donc il y a un plafond. Les universités ne peuvent pas charger plus cher pour les droits de scolarité qui sont réglementés. Ça, c'est la raison principale. Maintenant, okay. Effectivement, l'État donne une subvention assez élevée. On fait un effort au Québec qui, comparativement à notre richesse collective, qui est un peu moins grande que la moyenne canadienne, est plus grand qu'ailleurs. On essaie okay. De combler, là. Le gouvernement fait vraiment sa part, finalement.
OK, on comprend. Donc, c'est un choix de société. Socialement, on a décidé de rendre très accessibles les études supérieures au Québec depuis des années.
Ben, en fait, socialement, on a décidé d'avoir des frais de scolarité très bas. Je suis pas sûr que ça les rende plus accessibles. Puis à coup sûr, ça rend pas plus accessible une formation de qualité, parce que la formation, elle dépend aussi du financement qu'on a pour la donner. Et okay. S'il y a moins de financement, mais la qualité en souffre à long terme. Okay. Et je pense que c'est ça là, que les universités dénoncent et c'est inquiétant.
OK, je comprends. Donc, de toute façon, peu importe qui paye, ça monte, ça coûte plus cher, il y a de la rénovation, il y a de l'investissement à faire, donc faut que quelqu'un paye. Comment peut-on arriver? Et là, évidemment, les étudiants, vous ne serez pas surpris, aujourd'hui, sont sortis en disant, écoutez, aussitôt qu'ils vont, peu importe les chiffres qu'ils vont faire, s'il y en a pour lesquels hausse, on va descendre dans la rue, on est pour le gel de scolarité. Ça nous semble, aujourd'hui, en 2010, impossible. Comme observateur, vous qui êtes économiste, est-ce que vous voyez le gouvernement capable, alors qu'on a une dette de 223 milliards accumulés, capable de dire on va geler ça pour 5 ans?
Moi, j'ai bon espoir que le gouvernement va aller, dans le fond, va prendre le bon chemin, puis va dire il faut absolument régler le problème de sous-financement de nos universités, parce que sinon, on sera plus concurrentiel.
OK, c'est pas juste les frais de scolarité. Vous dites il faut prendre le problème dans l'ensemble, le financement général des institutions de premier cycle universitaire.
C'est ça, les universités. Mais ceci étant dit, vous avez un très bon point. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on augmente les impôts alors qu'on a déjà un fardeau fiscal plus élevé qu'ailleurs? Est-ce que le gouvernement qui est en déficit puis en plus qui a une dette qui approche les 224 milliards va se dire, ben c'est pas grave, on va continuer de faire le déficit pour augmenter la subvention aux universités? C'est des avenues qui nous semblent, dans le fond, ni prometteuses ni politiquement acceptables, alors que si on demande aux étudiants de faire un effort supplémentaire, c'est aussi parce que leur formation va être de meilleure qualité. Ils paieront pas la même chose. En fait, ils paieront pas plus cher pour avoir le même.
Est-ce que c'est garanti, ça? Ça, c'est pas garanti. Vous dites, on espère que si on paye mieux, si on paye plus cher, on va en avoir plus pour notre argent. Est-ce que c'est garanti, à votre avis?
En fait, je pense qu'il faut absolument, puis aujourd'hui, c'est une réunion des partenaires d'éducation, je pense qu'il faut absolument que les partenaires d'éducation aillent chercher du gouvernement cet engagement formel de dire on n'augmentera pas les droits de scolarité pour simplement enlever, nous, nos billes qu'on met dans les universités puis rembourser comme ça le déficit. Je pense qu'on doit aller chercher du gouvernement un engagement de dire on va mettre le même argent, on va demander aux étudiants d'en mettre un peu plus pour qu'on paye un peu plus cher pour avoir une meilleure qualité.
OK. Si on prend le modèle québécois, le fameux modèle québécois, et on le compare à d'autres modèles canadiens ou d'autres modèles européens, mais on ne fera pas de l'ensemble. Qu'est-ce qui vous semble dans l'organisation du paiement de l'accès aux études supérieures le plus inéquitable. Si vous prenez tous les modèles, parce qu'on comprend que partout ailleurs, c'est pas compliqué. En Amérique du Nord, c'est plus cher partout. Et toutes les provinces canadiennes, partout aux États-Unis. Et on n'est pas en train de dire qu'on va monter ça à 25 000 pour rentrer, mais qu'est-ce qui, dans la façon... Puis peut-être qu'il faudrait partir un peu comme les garderies. Là, à un moment donné, on disait les garderies à 7 piastres, vous vous rappelez?
Oui.
Le public, ils ont fait un sondage, ils se sont rendus compte que les gens pensaient que ça coûtait 7 piastres. Ils n'ont pas réfléchi à leur affaire. Dans la vraie vie, c'est plus proche 50 par enfant, mais le gouvernement en paye une quarantaine de dollars. Ce qui fait que ça coûte combien? Près de 2 milliards, sinon plus, cette année. Donc, la vraie valeur, est-ce qu'il y a une valeur établie, consensuelle, mettons, en Amérique du Nord, sur le coût d'une première année d'université, par exemple? Ça vaut, mettons, 8 000. Mais nous autres, on paye 2 000. Le 6 000 qui est payé par le... Vous comprenez ma question?
Oui, oui, oui.
C'est quoi la valeur, à peu près, d'un cours normal universitaire? C'est dur à dire, là, mais ça serait une référence pour nous autres.
Effectivement, écoutez, j'ai pas le chiffre précis en tête, ceci étant dit.
Mais la moyenne canadienne, l'avez-vous? Des coûts universitaires? Vous disiez tantôt, parler de moyenne canadienne.
Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de le calculer.
Puis ah oui?
Votre question a l'air très simple, mais elle ne l'est pas, parce qu'évidemment, justement, chaque programme a des coûts différents. Puis en plus... On peut calculer simplement le coût de l'enseignement, mais on peut aussi inclure, par exemple, les coûts de recherche, les infrastructures, par exemple, les bâtiments. Fait que, l'idée étant que les étudiants paient pour l'instant, particulièrement au Québec, là, une proportion faible de leur coût de formation. Okay. Puis au Québec, on paye, on a décidé de faire payer aux étudiants une proportion particulièrement petite. Le problème, c'est qu'évidemment, cette proportion-là varie d'une formation à l'autre. Fait que, par exemple, je vais vous en donner des chiffres,
oui.
Même si c'est pas la moyenne totale. Un étudiant en lettres va payer 40% du coût de sa formation, et l'étudiant en médecine va payer 12% du coût de sa formation, puis en médecine vétérinaire, 6% du coût de sa formation.
Okay.
Fait que, vous comprenez là que les trois étudiants dont je viens de parler, ils payent le même montant. C'est que proportionnellement, il y en a un, l'étudiant en lettres, qui paye beaucoup plus.
À partir de ce moment où vous payez tous le même frais d'inscription, on comprend tous très vite, sans avoir fait nécessairement un doctorat, qu'en médecine, ça coûte plus cher faire virer les cours, les professeurs pour la recherche.
Puis dans ce cas-là, non seulement ça coûte plus cher, mais c'est plus rentable aussi, parce que les salaires en médecine, on s'entend-tu qu'en moyenne, c'est plus élevé.
Ben oui.
Fait que le problème, c'est ça, parce que votre question sur lequel est le plus inéquitable, lequel est le plus équitable, ben effectivement, je pense que c'est particulièrement inéquitable de demander le même montant pour tous. Ici, vraiment, là,
est-ce qu'on est
l'égalité, c'est pas l'équité.
Hein, Monsieur Chassin, est-ce que le Québec est la seule place où c'est des frais uniformes, peu importe les cours qu'on fait?
Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est des frais uniformes, voire des frais de zéro. Ceci étant dit, c'est pas ça qui garantit ni l'accessibilité, ni l'équité, à mon point de vue.
OK. Premier point, donc, l'Institut économique a statué sur certaines pistes de solutions. Est-ce qu'on regarde ça ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Ben écoutez, nous, ce qu'on recommande, puis c'est assez simple, c'est de permettre aux universités davantage de flexibilité quand vient le temps de décider quel frais de scolarité on va charger aux étudiants. Ça veut dire effectivement, justement, de prendre en compte cette réflexion sur l'équité en chargeant aux étudiants une proportion des coûts de formation. Et ce qui est un peu logique, parce que c'est les étudiants qui sont bénéficiaires de la formation qui leur est octroyée.
Et la plupart du temps, quand ça va coûter plus cher, normalement, ton salaire moyen après va être plus élevé.
Puis dans certains cas, effectivement, c'est le cas. C'est pas le cas partout.
Non.
Puis les universités, si elles disposent d'une certaine flexibilité...
pourraient tenir compte de ça.
Vont pouvoir s'ajuster, vont pouvoir être inventives,
okay.
Puis vont pouvoir se développer des niches aussi. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'universités qui donnent des programmes un peu similaires. La question, c'est de savoir est-ce que ça serait peut-être intéressant qu'une université se développe une spécialité, puis qu'une autre à côté choisisse une autre voie, puis que ça donne davantage de choix aux étudiants.
Okay. Donc, au lieu de statuer point par point, vous dites, non, ce qu'on voudrait à l'Institut économique de Montréal, c'est que les universités puissent ventiler les frais d'administration, en fait, les frais d'inscription, selon les coûts reliés à l'enseignement.
Puis c'est ça, puis les choix que chaque université se réalise, parce qu'évidemment, il y a des institutions qui se dotent de missions, de services à la collectivité, puis de relations peut-être plus établis avec leur région, alors qu'il y en a d'autres qui vraiment se concentrent sur la recherche. Ça représente des coûts différents. Est-ce que à ce moment-là, elles ont la latitude de choisir des voies différentes? Je pense qu'on devrait aller dans cette voie-là aussi.
Et dans cette lignée-là, M. Chassin, ce qui est un peu étonnant d'étudiants qui sont quand même pas des cruches, là, surtout les porte-parole des mouvements d'étudiants, ils arrêtent pas de nous dire, et je l'ai entendu encore aujourd'hui, le gouvernement veut se désengager là-dedans. Dans la vraie vie, vous savez, comme moi, que si on faisait des changements de structure puis sur la façon d'aller chercher les inscriptions puis de faire payer les étudiants, le gouvernement, au mieux, augmentera pas ses budgets, mais ça serait étonnant qu'ils disent « OK, on va sabrer de 40% comme ils ont fait en Irlande ou des places de vente. » C'est pas ça qui est envisagé. C'est juste que, comme ça coûte plus cher à chaque année, ben la différence maintenant serait probablement plus payée par les étudiants qui, eux, bénéficient de ça. Mais je vois pas le gouvernement, à moins que vous me disiez d'un carton, le gouvernement pourrait se retirer. Moi, je n'ai jamais vu ça, là.
En fait, moi, je pense qu'il faut s'assurer, puis c'est ça que je disais tout à l'heure, il faut que les partenaires aillent chercher du gouvernement cet engagement de maintenir son financement réel. Ceci étant dit, la question que pose la ministre de l'Éducation dans les documents de consultation, c'est comment augmenter le financement des universités sans hausser les impôts, par ailleurs, elle met une balise, mais elle cherche quand même à croître le financement des universités pour pas qu'on perde notre place, puis que nos universités, finalement, deviennent de moins en moins concurrentielles, puis fassent partie du peloton de queue, finalement.
OK. Dans les pistes de solution, on disait donc, départ, autonomie des universités sur les frais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être amenés?
En fait, certainement, il y a toutes sortes de façons d'être inventif, mais je pense que, déjà, si on donne la latitude aux universités de choisir leur frais de scolarité à la fois par programme puis à la fois selon les missions qu'elles se donnent, il va y avoir plus de diversité. Puis on s'entend, déjà à l'heure actuelle, il y a des différences entre universités. Étudier à McGill, c'est très reconnu dans le monde. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'un étudiant qui va étudier dans une université qui est moins reconnue va payer le même prix qu'un étudiant qui est à McGill, puis que finalement on subventionne davantage? Fait qu'il y a peut-être des façons de faire qui soient un peu différentes.
Mais les directeurs, les recteurs des universités doivent trouver la même chose que vous, doivent dire que ça n'a pas d'allure. Je peux pas croire qu'ils veulent pas, ils veulent pas de changement eux aussi.
Tout à fait. En fait, même ils réclament à corps et à cri des changements. Je vous dirais qu'ils ont évalué le sous-financement des universités québécoises par rapport à la moyenne canadienne à 620 millions de dollars annuellement. Est-ce que les chiffres de la CREPUC sont solides? Je ne les ai pas étudiés en détail, mais effectivement, on parle depuis plusieurs années de 400 à 500 millions de dollars de manque à gagner. Ça fait peut-être que c'est rendu à 620 millions. Et l'idée étant que c'est de l'argent qui, à chaque année, laisse une trace. Il y a un petit manque à gagner. Il y a un professeur qu'on peut pas engager parce qu'il est payé plus cher ailleurs. Il y a des livres qu'on n'achète pas. Puis tout ça s'accumule.
Mais M. Chassin, je vous pose la question. Vous avez étudié, vous êtes économiste, donc vous êtes passé par l'université. Ça fait combien de temps vous êtes plus à l'université?
Non, ça fait pas très longtemps, ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans. Quand vous étiez à l'université, le discours était le même, là, le financement. Est-ce que vous avez participé à des groupes d'étudiants qui revendiquaient contre le gouvernement?
Oui, j'ai été membre de la Fédération étudiante universitaire du Québec.
Oh, la FEUC!
Donc,
vous avez, la raison est arrivée après, ou quoi?
En fait, je vous dirais, puis c'est vraiment intéressant comme question, je vous dirais que on a toujours combattu pour la même chose, en tout cas dans mon cas, puis à la FEUC, je pense qu'ils ont ce combat-là aussi encore à cœur, c'est l'accessibilité à une formation universitaire de qualité. Moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la qualité, elle commence à plus être là. Okay. Et le jour où il va falloir aller étudier en Ontario pour avoir accès à une formation de qualité, ben même si on a la gratuité scolaire au Québec, il n'y aura plus d'accessibilité.
OK. Est-ce que, d'ailleurs, les chiffres, maintenant, vous avez pas, l'an passé, l'Institut économique avait lancé une étude disant que même quand on augmente les coûts dans d'autres provinces, par exemple, ou même si on le faisait au Québec, c'est pas sûr que les gens sauveraient puis iraient plus à l'université. Il n'y a pas toujours un lien direct avec le coût puis la qualité de l'enseignement et l'accessibilité réelle.
Exact. La dernière fois, en fait, que les frais de scolarité ont augmenté au Québec, la fréquentation universitaire a augmenté aussi. Fait que c'est pas que les frais de scolarité qui sont un enjeu. En fait, les frais de scolarité puis l'accessibilité, c'est deux choses complètement différentes. Le programme qui assure l'accessibilité, c'est pas les frais de scolarité, c'est l'aide financière aux études. Puis ça, c'est important qu'on la maintienne puis qu'on la bonifie. Je pense que les universités devraient même aider les étudiants en récupérant une partie des sommes de plus des frais de scolarité vers des bourses aux étudiants. Je pense que ce serait bienvenu de leur part de faire ça.
est-ce qu'on fait volontaire? Oui, effectivement, là, vous comprenez que ce que vous dites, dans le fond, c'est ceux qui ont plus de misère financièrement, les aider, continuer à les aider. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est contre ça, là. Que ce soit des prêts ou des bourses dans des cas, j'allais dire extrêmes, dans les cas où c'est mérité. Mais ça, c'est à peu près comme le BS. Quand on a un discours sur le BS, vous êtes d'accord que c'est la même chose. Ceux qui ont, la femme qui est seule avec trois enfants, puis qui gagne 21 000 par année, on veut tous qu'elle ait de l'aide. Ce qui nous écœure, c'est ceux qui fourrent le système, puis c'est ceux qui n'en ont pas besoin, puis qui en ont. Puis à l'école, c'est la même chose. Ce serait dommage d'apprendre, par exemple, que des talents se rendent pas parce que les parents n'ont pas d'argent puis ils n'ont pas une scène.
Puis vous avez raison. En fait, le problème, c'est que dans une réflexion mur à mur de dire on va faire payer la même affaire pour tout le monde,
oui.
Ben ça veut dire que ceux qui en ont plus de besoin d'aide, eux, ils en reçoivent moins. Puis ceux qui sont capables de payer beaucoup plus cher, ben eux, on leur charge le même prix que tout le monde. Fait que là, il y a une iniquité. Puis en plus, honnêtement, je pense que c'est quelque chose, c'est un modèle qui arrive à sa fin.
Il arrive à sa fin. Mais voyez-vous, quand on s'arrête deux secondes, je suis certain que les gens me voient venir et nous entendent en disant, écoutez, on s'en va aussi vers quelque chose qui va mettre en relief, M. Chassaing, mm-hmm. plein d'éléments de financement de notre société, mais majeurs, là. On parle de la santé à deux vitesses, quand on parle des garderies, moi, j'ai de plus en plus de gens qui me disent, je comprends pas que dans un souci social où tout le monde veut investir puis aider les autres, mm-hmm. que quelqu'un qui fasse 400 000 par année soit à 7 piastres par jour à garderie,
ben,
alors que ceux qui tirent le yard par la queue, pour se comprendre, payent 7 piastres. On va être obligé à un moment donné d'avoir une façon différente de voir ça. La taxe de vente ajoutée, la TVA en Europe, est probablement plus correcte que la nôtre, parce que dans le fond, plus ça monte, plus la taxe monte, parce que plus t'es dans le luxe, plus t'es dans le troisième... Tu sais, on sent qu'on va être obligé de tarifier bientôt,
mm-hmm.
Autant dans les écoles que le bien-être social, que dans l'université, que les garderies, que l'accès...
Les garderies, c'est un exemple intéressant, parce que voyez-vous, on a décidé de charger pas cher,
mm-hmm.
mais est-ce que ça veut dire que les places en garderie sont accessibles? Demandez aux familles qui en cherchent une.
Pas du tout.
Ça fait que l'accessibilité puis le frais qu'on charge, c'est pas la même affaire.
Alors, il y a une réflexion, mais on sait que ça s'en vient, on le voit, là, gars. Mais quand même, voyez-vous, aujourd'hui, vous avez été dans FEUC, 4 ans plus tard, premier commentaire qu'on a eu aujourd'hui, j'écoutais Louis dans les nouvelles, ça a été, il n'y a pas question, on paiera pas, puis, fait que c'est, il n'y a pas d'ouverture là non plus, là.
Ben écoutez, c'est une négociation, hein. Ils montent leur rapport de force, puis c'est bien correct. Les étudiants ont des choses à réclamer, entre autres en aide financière, tant mieux qu'ils le fassent. Ceci étant dit,
mais je les trouve bons.
Ils n'ont pas tort sur certaines choses, mais ils n'ont pas raison sur d'autres choses.
Mais s'ils demandent de la qualité, moi, je vais entendre plus. S'ils demandent de l'aide aux études, je vais entendre beaucoup. Mais s'ils disent on veut un gel pour 5 ans, d'après moi, il n'y a pas grand monde qui va les entendre non plus. Et je les trouve vaillants aussi et chanceux de pouvoir manifester aujourd'hui, alors que partout, c'est les examens de fin de session, alors qu'ils doivent être meilleurs que les autres. Probablement. Ils sont bons.
Puis savez-vous, M. Parent, un des problèmes d'accessibilité, là, c'est pas tant le frais qu'on charge à l'entrée à l'université, c'est ceux qui se rendent même pas à la porte de l'université, ceux qui décrochent en cours de route. Faudrait peut-être se préoccuper du
décrochage. Ça coûte cher. Pour la société, ça coûte cher.
Exact.
Vous avez raison. Merci de nous avoir parlé.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Au revoir.
Youri Chassaing est économiste à l'Institut économique de Montréal. C'est le fun parce que ça va même faire taire des grands gueules qui disent « Oh, c'est bien l'Institut économique ». Il était dans la FEUC, lui. Il y a 4 ans. Puis je trouve que ces points sont pas pires. Ceux qui ont besoin d'aide, aidez-les. Ceux qui ont pas d'argent parce que les parents ont pas une scène, donnez-leur des bourses. Ça, c'est correct, on est tous d'accord. Mais, tu sais, 1 200 pour tout le monde, pour le médecin comme pour le pharmacien, tout comme l'étudiant en lettres, c'est pas logique. C'est pas une question équitable pour équitable. C'est pas logique. Tout le monde a compris ça. Garde 40%, 7% tantôt,
C'était 12% vétérinaire, 40% en lettres et une vingtaine de pourcents, 18%, je pense, pour l'étudiant en médecine.
Ben, tu comprends que le gouvernement, il paye le 80% en haut. C'est correct, on a besoin de médecins, on comprend tout ça, là. Mais ils sont-ils capables de donner un petit peu plus quand ils vont gagner 200 000 par année après? D'après moi, oui.
C'est ce que disait Lucien Bouchard aussi.
En
février dernier, il avait présenté, avec les Lucides, il avait présenté justement...
La contribution.
Une proposition où on aurait des frais de scolarité plus élevés, par exemple, si c'était en médecine que c'était en justement comme on a en lettres, par exemple. Ben là, les frais seraient proportionnels. C'est un peu le discours que tenait Lucien Bouchard.
Dans l'élément lucide de cette affirmation-là, tantôt j'ai évoqué, Louis, tu sais un peu comment ça marche la TVA en Europe, sur certains items comme la boisson, par exemple, c'est 21% de taxes. Mm-hmm. Quand tu vas au restaurant puis tu prends un repas, j'ai trouvé ça intelligent, moi, je montrais ça à ma blonde, je regarde comment c'est fait, tu prends un repas, le repas va être à 6%, ok? Mais ton verre de bière, 21%. La boisson, ils considèrent eux autres que c'est un objet de luxe, puis la TVA est plus élevée là-dessus. Le peuple a chialé un peu au début, mais finalement...
c'est comme la cigarette dans les endroits publics. Tout le monde a chialé au départ, mais après ça, c'était réglé.
On va être obligé. Moi, j'aime bien ce que M. Youri Chassin disait. Il dit, on voit qu'on s'en va vers quelque chose de plus logique dans l'utilisation. Autant dans les garderies, autant dans les écoles. On pourra pas garder ça égal dans notre modèle, tout le monde égaux. Je pense pas. Pas longtemps, en tout cas. Parce que là, on a comme quelques dettes. On revient dans un moment. Encore plus de